Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, j'ai décidé de vous parler des mesures qui, je suppose, vous intéressent tous, celles qui ont été prises cet été pour lutter pour le pouvoir d'achat, enfin contre l'inflation, en tout cas pour le pouvoir d'achat. Nous allons donc voir si elles sont efficaces. Alors avant de voir leur efficacité, il faut d'abord regarder le chiffre officiel de l'inflation qui est pour les 7 premiers mois de l'année, puisqu'il est arrêté au mois de juillet, là aujourd'hui, à 6,1%. Je ne vous dis pas que le chiffre est bon, je vous dis simplement que le chiffre est officiel, 6,1%. Rien ne dit que cette inflation ne va pas se poursuivre dans les mois à venir, d'autant plus que le gouvernement, vous le savez, s'est refusé à bloquer les prix, y compris d'ailleurs les prix de première nécessité comme ça avait été réclamé. Alors, un autre chiffre qui vient tout de suite derrière, c'est qu'est-ce qui a été fait avec le SMIC. Eh bien, ce qui a été fait avec le SMIC, il a été non pas augmenté, mais modifié, parce que parler d'augmentation quand c'est inférieur à l'inflation, moi, ça me va pas bien. Il a été modifié de plus de 2,01% au 1er août. Alors, ça fait quoi, ça? Eh bien, ça fait pour un temps plein, plus 26 euros net sur le mois. Donc 6 euros d'un côté, 6% d'un côté, pardon, et 2% d'un côté, ça ne fait pas tout à fait le compte. En ce qui concerne la retraite du régime général, il y avait déjà eu 1,1% en janvier et il y aura 4% en septembre. Mais attention, je ne parle que de la retraite du régime général. Rien n'est prévu pour la retraite complémentaire. Alors j'ai regardé pour moi, le niveau de la retraite complémentaire est équivalent au niveau de la retraite du régime général. Donc même si ça fait 5%, ça fait 5% d'une demi-retraite en particulier, puisqu'il faut additionner le régime général et la retraite complémentaire. Donc là encore, on est loin du compte. Alors ce qu'a fait le gouvernement, nous allons le voir en détail, c'est de se refuser, je l'ai déjà dit, de toucher finalement sur les prix avec le blocage des prix, mais il s'est aussi refusé à augmenter les salaires, mais plutôt de prendre des mesures qu'on peut qualifier de périphériques, dont l'efficacité est d'une part contestable, on va le voir en détail, mais d'autre part orientée en plombant davantage notre système de protection sociale et en plombant aussi les rentrées fiscales dont notre fonction publique a bien besoin. Alors tout ça, ça a un nom, ça s'est appelé le paquet pouvoir d'achat, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Alors je vais lister les mesures. Tout d'abord, il y avait la prime Macron qui devient, elle change de nom, la prime de partage de la valeur. En fait, son montant varie en fonction de l'ancienneté, de la classification, du niveau de rémunération de l'intéressé. L'une de ses caractéristiques est qu'il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Elle va donc se substituer mécaniquement, finalement, aux éventuelles augmentations de salaire. Et elle va casser davantage le financement des retraites de notre branche maladie, etc., en l'absence de cotisation sociale. Donc, on risque fort d'avoir un transfert de la notion de salaire avec, finalement, cette prime de partage de la valeur sans cotisation sociale. Mais attention, tout le monde ne va pas la toucher. Alors, dans les médias, on parle beaucoup du plafond de 3000 euros d'exonération. Il ne faut pas en déduire que vous allez toucher 3000 euros, loin de là. D'une part, elle existe déjà, donc vous n'allez pas la toucher deux fois pour ceux qui l'ont eu en 2021. Son montant moyen réel de reversement était en 2021 de 572 euros, ce qui fait 50 euros par mois. Il faut bien comprendre aussi que cette prime est versée au bon vouloir des directions d'entreprise. soit en 2021, c'était 3,4 millions de salariés qui l'avaient touché seulement. Donc on est loin du compte, puisqu'il y a 25 millions de salariés en France. On peut dire en 2021, en tout cas, que un salarié sur 8 a été concerné. Donc vous voyez que c'est loin d'être une mesure générale, et comme je l'ai dit, c'est une mesure viciée, parce qu'elle plombe en même temps le financement de la protection sociale. Une autre mesure, c'est sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires, uniquement dans les entreprises entre 20 et 249 salariés. Il y a une suppression forfaitaire des cotisations sociales. J'allais dire, ça continue. Donc encore un moyen de plomber notre protection sociale, puisque sans financement, on voit vite qu'on va avoir encore plus de difficultés à financer nos retraites, à financer la maladie, etc. Alors une mesure pour ce qu'on appelle les indépendants, les professions libérales ou les micro-entrepreneurs, qui gagnent le SMIC ou en dessous du SMIC, puisque c'est une des particularités pour les indépendants, c'est d'avoir beaucoup de monde en dessous du SMIC. C'est encore et toujours une baisse des cotisations sociales qui est prévue. Alors si on regarde les chiffres, pour un indépendant qui serait au niveau du SMIC, son gain annuel donc de suppression des cotisations sociales serait de 550 euros. Soit l'équivalent, quand on ramène à l'inflation, à une inflation de 3%, alors que celle-ci est déjà à 6,1 au milieu de l'année, au mois de juillet. Pour ce qui est de la moyenne réelle des revenus des indépendants, on est en dessous du SMIC, hein, sur la moyenne, les gens gagnent en moyenne moins que le SMIC, et le gain annuel, quand on prend cette moyenne qu'on connaît, ce gain annuel serait de 240 euros. Donc c'est quand même pas terrible avec l'inflation que l'on connaît. Alors il y a aussi une mesure pour les chefs d'entreprises agricoles. Il y a une disposition spéciale, mais attention, celle-ci ne va concerner que les jeunes exploitants, entendez ceux qui ont une exploitation depuis moins de 5 ans. Il s'agit encore et toujours d'exonération de cotisations d'un volume, je ne vous donne pas le calcul exact, c'est assez fastidieux, également inférieur finalement à ce que représente l'inflation. Alors il y a aussi des règles qui sont données pour modifier finalement les conditions de l'intéressement qui donnent davantage finalement de pouvoir à l'employeur. Pour la participation, il y a également des règles qui sont modifiées avec des conditions de déblocage de cette participation également modifiées. Mais c'est une évidence, on ne la touchera pas deux fois, cette participation. Donc si on la débloque maintenant, on ne la verra plus tard, bien évidemment. Alors une règle encore et toujours contre finalement le financement de notre protection sociale, celle qui concerne les titres restaurants. Ils vont être modifiés, mais en tout cas pas la somme des tickets restaurants restera la même. C'est pas une grosse avancée de ce côté-là. On pourra, pour ceux qui en ont, tout le monde n'a pas de titre au restaurant, acheter désormais des produits qui ne sont pas directement consommables. Aujourd'hui, on peut acheter une barquette de carottes râpées, par exemple, au supermarché du coin, mais on ne peut pas acheter des carottes pas râpées. Eh bien, demain, on pourra, puisque finalement, tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consommables, pourront être achetés avec des tickets restaurants. Le problème, c'est que les tickets restaurants ne sont pas faits pour ça. Et il y a encore et toujours une augmentation du seuil d'exonération fiscale. Alors, il faut dire à propos des tickets restaurants aujourd'hui qu'il y a 4 millions de salariés qui en touchent sur les 25 millions finalement de la population de travailleurs salariés. Donc ça ne fait pas le compte non plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les tickets restaurants ne sont pas là pour finalement remplacer quelque part le salaire. Alors, il y a une autre mesure sur les minima conventionnels. Alors, les minima conventionnels, c'est les chiffres qui sont donnés par les classifications, les niveaux de salaire qui sont donnés par les conventions collectives. Il y a tout un texte assez long pour inciter finalement le patronat à mettre à jour les grilles de salaire, mais simplement la grille, les chiffres de départ, ceux qui sont parfois en dessous aujourd'hui, qui sont devenus en dessous du niveau du SMIG. Donc cela concerne 112 conventions collectives. Mais attention, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, mais aucune obligation. C'est simplement une invitation à négocier. Et quand je dis aucune obligation, c'est évidemment de rectifier le niveau le plus bas pour qu'il ne soit pas au-dessous du SMIG, mais aucune obligation pour modifier l'ensemble de la grille des salaires. C'est ce qui aurait été intéressant, mais ce n'est pas ce qu'a sorti le gouvernement dans son texte de loi. Voilà pour une première étape. Comme le sujet est un petit peu lourd, je vous propose une petite coupure musicale avec une chanson à peu près de circonstance. La chanson de Zachary Richard, « Travailler, c'est trop dur ».
Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Prendre la charité, c'est quelque chose de pas fait. Chaque jour, comment je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère la vie. Moi je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle et je selle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Tu connais où est Chartigal, c'est loin d'un grand bout à l'autre, mais le long du grand Texas j'ai cherché où est juste pour toi. Travailler c'est trop dur, et vous laissez pas bon. Mon la charité, c'est quelque chose de parfait. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre mieux. J'attrape mon archer et je joue ma vieille basse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien, bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur et vous laissez pas bon. Mon est la charité, c'est quelque chose de parfait. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mon mélange, charité. chance peut pas faire. Chaque jour, comment je vis, il en demande de quoi je vis. Il dit que je vis sur la mort, et j'espère de vivre mieux. Dit que je vis sur la mort, et j'espère de vivre mieux.
Eh bien, je reviens sur cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail. On en était à parler des mesures gouvernementales pour le soi-disant maintien du pouvoir d'achat qui sont sorties cet été. Alors, une autre que je vais vous citer, c'est la question du plafonnement des loyers. Alors, il y a aussi sur ce sujet un tour de passe-passe, puisque on nous sort une limitation de 3,5% de l'augmentation des loyers, ce qui n'est quand même pas rien, pour 2022 ainsi que pour le premier trimestre 2023. Alors pourquoi 3,5% soi-disant pour ne pas pénaliser les petits propriétaires ? Sauf que aujourd'hui, 50% du parc locatif privé n'est pas détenu par les petits propriétaires, mais par les gros propriétaires qui possèdent au moins 5 logements. Donc ceux-là aussi pourront augmenter finalement les logements de 3,5%. Ils ne se gêneront d'ailleurs pas, hein, puisqu'ils peuvent le faire. Alors en ce qui concerne les APL, la revalorisation est de 4%. Mais cela ne compense pas, quand on y regarde de plus près, la hausse de 3,5%, tout simplement parce que les volumes d'un côté de l'APL, d'autre part du loyer, ne sont pas les mêmes. Je m'explique. Pour un loyer actuel de 500 euros et des APL de 200 euros, le reste à charge est de 300 euros aujourd'hui. Demain, si le loyer passe à plus 3,5%, il arrive à 517,5 € et les APL à 312 € dans cette majoration de 4%. Et donc la différence finalement va être plus importante et elle va être plus importante de 5,5 €. Donc finalement cette augmentation des APL en pourcentage ne va pas compenser en volume l'augmentation des loyers. Il y a aussi un autre passage de la loi pour pouvoir résilier plus facilement certains abonnements de gaz, d'électricité ou d'assurance. Il n'est évidemment pas question de réhabiliter la notion de service public. Alors, un passage aussi sur le volet énergie, une série de mesures discutables, plutôt beau ou plutôt mauvais, tout en se refusant de s'appuyer sur un service public de l'énergie, ce qui devrait être fait. Je ne vous cite que deux exemples, vous verrez que c'est mi-figue, mi-raisin, la réouverture temporaire des centrales à charbon, et entre le 31 mars et le 1er novembre, soit en dehors de la période hivernale, la possibilité toujours de couper l'électricité pour non-paiement des factures, mais avec un talon pour permettre de répondre à ces besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va vous couper la moitié finalement de votre arrivée au compteur électrique. Et quand je dis à moitié, on n'en sait rien, on ne sait même pas si on pourra toujours finalement alimenter son frigo ou son congélateur ou sa machine à laver. Ça n'est absolument pas dit. Une autre mesure pour ceux qui sont concernés par la prise en charge des frais de carburant, mais seulement cela par l'employeur, il y aura encore une exonération d'impôt jusqu'à 400 euros par an, mais comme je viens de le dire, uniquement pour ceux qui sont concernés par cette prise en charge, et ils ne sont pas très nombreux. Alors une mesure, je dirais, vicieuse, c'est la transformation des jours de RTT en argent, en monnaie, et donc finalement c'est le salarié qui va se payer un revenu supplémentaire, par sacrifice. Et là encore, il y aura une exonération de cotisations sociales dessus. Donc là, c'est véritablement vicieux comme mesure, hein, finalement. C'est le retour indirect aux 39 heures Et en plus, c'est le salarié qui se paye finalement le soi-disant revenu supplémentaire. Alors, une autre mesure est la suppression de la redevance audiovisuelle, ce qui laisse craindre pour la pérennité du service public de l'audiovisuel. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a pointé cette mesure en exigeant finalement que ça ne pénalise pas le service public de l'audiovisuel. Alors, il y a cette prime exceptionnelle de rentrée pour ceux qui sont aux minima sociaux. Le RSA, la AAH, la AS, l'allocation spécifique de solidarité pour ceux qui ne la connaissent pas, l'allocation équivalent retraite, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les bénéficiaires des aides au logement et étudiants boursiers. Elle est de 100 euros et majorée de 50 euros par enfant à charge. Il y a donc beaucoup de mesures que je viens de citer, mais pas grand-chose qui ait un impact sur la durée, pas grand-chose qui concerne la totalité ou la majorité de la population ouvrière ou employée. Tout se fait au détriment de l'argent public et au détriment du financement de la protection sociale. Il n'y a rien sur une augmentation générale des salaires et rien du tout qui touche au super profit des grosses entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.